Le vendredi 3 mai, pour vous, Français qui vivez à l'étranger, c'est la date limite pour vous inscrire sur les listes électorales consulaires afin de pouvoir voter aux élections européennes de juin 2024. Ne tardez pas, rendez-vous sur service-public.fr.
France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
Ce soir, je reçois Marie-Sophie Ferdan. Vers 19h45, ce sera le son du jour. It's Dark Inside de Kim Gordon. Vers 19h50, le grand tour de Marie Sorbier qui sera ce soir dans les sous-sols de la capitale à 20 mètres de profondeur pour nous faire visiter les catacombes de Paris qui fermeront leurs portes en 2025 pour plusieurs mois de rénovation. Le tout est réalisé par Alexandre Fougeron avec Nicolas Bonnet à la prise de son. Bonsoir Marie-Sophie Ferdan.
Bonsoir.
Vous êtes à l'affiche de la pièce En travers de sa gorge, texte, mise en scène, scénographie de Marc Lenné, c'est à voir jusqu'au 16 mars au Théâtre du Rond-Point. Quelques autres dates suivront. Dissection d'une chute de neige de Sarah Strisberg, mise en scène de Christophe Roque, poursuit sa vie en tournée. Là, encore quelques dates à venir. Et puis, on vous retrouvera à l'Odéon, au Théâtre de l'Europe, pour les Paravents de Jean Genet, dans une mise en scène d'Arthur Nosiciel. Je donnerai toutes les dates à la fin de notre entretien. Alors, on va bien sûr parler de ces actualités, mais profitez bien sûr de votre venue dans cette émission pour en savoir un peu plus sur vous. Sur faire un petit voyage dans votre vie, sur ce qui vous a conduit vers ce métier de comédienne, sur les rencontres importantes, sur la façon dont vous exercez votre art. Alors, côté famille, mère directrice de maternelle, père directeur d'un site industriel, lui issu d'un milieu ouvrier, paysan, qui passe son temps à lire, qui aime bien partager ses lectures avec vous. La lecture, on va voir, va avoir une place importante dans votre enfance, surtout moment où vous étiez un peu isolé à la campagne. Et puis, il faut préciser aussi que vous êtes, Marie-Sophie Ferdan, la quatrième et dernière d'une sororie, donc des sœurs, quatre sœurs. Des sœurs aînées donc qui vont, elles, investir la musique comme mode d'expression. Et même, ce sera aussi votre cas avec le violon. On va voir, on le sait donc, que vous avez choisi, vous, une autre voie. Cette place de petite dernière, dans quelle mesure vous pensez qu'elle a pu déterminer certains choix de votre vie ?
Oh, elle a tout défini, je pense.
À ce point-là ?
Ah oui, bah, quand vous êtes la dernière, vous êtes la petite, et je suis éternellement la petite de mes sœurs. Et puis, je crois que ça a des vertus, puis des inconvénients aussi, mais la vertu première, c'est que vous avez le droit de jouer. Vous êtes celle qui joue. Il y a les aînés, c'est celles sur lesquelles on compte, qui doivent être rationnelles, cartésiennes. Et puis la dernière, on l'oublie parce que de toute façon, elle fait partie un peu du troupeau. Voilà, c'était comme ça que j'ai senti les choses. Et c'est parfois étonnant, mais en même temps, c'est celle qui peut jouer. Moi, j'ai joué et je continue de jouer. Donc,
Alors, voilà. Vous avez joué aussi donc du violon, parcours de violoniste classique, de chant au conservatoire. Un peu de musique de chambre avec vos trois sœurs, donc une au piano, une à la flûte traversière, une au violoncelle, vous au violon. Mmh. Avec ce violon Suzuki orange, vous promenez avec l'orchestre du conservatoire de Grenoble un peu partout. Mais vu d'aujourd'hui, cette formation à la musique classique, à cette discipline, vous pensez que ça a été un atout plus tard quand vous êtes devenue comédienne ?
Bah c'est, je sais pas, oui. Je pense que ça a participé à ce que je suis beaucoup, parce que j'aimais ça, j'aimais jouer en groupe, j'aimais jouer dans les orchestres, j'aimais jouer dans les petites formations, les grandes, et que, bah voilà, j'ai encore le mot jouer, mais c'était encore une façon de faire des choses ensemble. Voilà, vous l'avez dit, vous êtes bien informés, je vivais à la campagne, il n'y avait pas énormément d'activités, et la musique avec mes sœurs, c'était une chose importante, c'était l'accès à la beauté, je crois aussi à l'émotion. Et puis à faire quelque chose en groupe, qui est vraiment ce qui compte beaucoup pour moi.
Alors, il y a eu un autre accès à la beauté, solitaire, celui-là, je l'ai dit, les livres, qui ont été vraiment importants, je crois, dans votre enfance. Alors, il y avait beaucoup, et adolescence, il y avait beaucoup de choix dans la maison familiale, visiblement, aussi bien Flaubert que Montaigne, Duras que Colette, et puis un goût particulier que vous développez pour la littérature médiévale. La vie étant bien faite, quelques années plus tard, au sein de la Comédie française, vous faites la mise en espace et on voit des laits et fables de Marie de France. C'était en 2012 au Théâtre Éphémère et c'était aussi diffusé sur France Culture. Alors pour le plaisir, on va écouter un extrait de L'agneau et la chèvre, lu par vous, Marie-Sophie Fernandes.
Non. Une brebis avait mis bas, mais le berger lui enleva son agnelet. Et l'ayant pris, à une chèvre il le remit. Elle le nourrit de son lait et le mena paître en forêt. Puis, le voyant assez grandi, l'appela près d'elle et lui dit « Va-t'en chez la brebis, ta mère, près du mouton qui est ton père. Je t'ai nourri assez longtemps. » Il lui répondit sagement « Il m'est avis que ma mère est celle qui m'a donné son lait, plus que celle qui m'a porté et m'a ensuite rejeté. »
Alors évidemment, les auditrices et auditeurs n'ont pas vu les grimaces que vous avez faites, Marie-Sophie Fernandes, pendant que nous écoutions, vous écoutions. Est-ce que vous faites partie de ces comédiens, comédiennes qui n'aiment pas s'entendre ou est-ce que c'est parce que c'est trop loin, ça, déjà, de vous ?
Les deux, et puis, oui, moi, je savais qu'il y avait des archives dans votre émission, mais je ne pensais pas que ce serait moi, donc...
Ouais, c'est la seule.
Ah, très bien.
Mais ce goût, quand même, pour la littérature médiévale, vous savez comment il naît ? Est-ce qu'il est toujours actif, déjà ?
Non, bah, je ne veux pas... Non, il était là au moment des études. C'est aussi parce que l'Hélène Marie de France était au programme de l'agrégation. Et c'est vrai que ça peut paraître difficile, un peu obscur, mais j'ai beaucoup aimé la langue médiévale, en fait, parce qu'on avait accès aux deux textes. Et c'était comme j'avais fait pas mal de latin, c'était une façon de voir l'évolution de la langue. Et c'est ça qui me plaisait beaucoup, moi, l'étymologie, la phonétique historique, prendre un mot et de voir comment il évolue selon les invasions, selon les guerres, selon la... Vous savez que on perd des voyelles et des consonnes au fur et à mesure des siècles par paresse. Parce qu'on a de moins en moins envie d'articuler un mot et que un mot qui demandait un grand effort d'émission, on veut plus. Donc au fil du temps, on le banalise, on l'écourte, on fait tomber tout ce qui est à la fin du mot qui est inutile. Et puis voilà, c'est comme ça depuis l'époque latine. Et ça, c'est passionnant, je trouve. Mmh. Et dans les mots qu'on dit aujourd'hui au théâtre, j'aime bien retrouver comment ils résonnaient au début et voir le chemin qu'ils ont fait de vulgarisation, mais vulgarisation pas au sens d'un jugement moral, mais d'une banalisation, la banalisation de la langue, et de voir les sens cachés qu'ils avaient à l'origine, le sens atomique qu'ils avaient, et puis au fur et à mesure que les mots se passent, ils perdent certaines données, mais ils en acquièrent d'autres.
Alors là, on entend bien l'agrégé de lettres modernes que vous êtes, Marie-Sophie Ferdinand, la normalienne que vous êtes, qui a d'ailleurs enseigné un an en ZEP.
Ouais.
Il semble que vous ayez pris beaucoup de plaisir, mais vous avez fait beaucoup de hors-piste, qui ne semblait pas être tout à fait du goût des inspecteurs de l'éducation nationale. Mmh. Mais de fait, bon, c'était quand même déjà trop tard, puisque le virus du théâtre vous avait été inoculé. Alors, il y a un moment fondateur, il y a le voyage à Rome avec des camarades de Normal Sup, certains de vos camarades étudiants en histoire qui vous proposent de faire des matchs d'improvisation. Oui. C'est la première piqûre. Deuxième piqûre, c'est quand un de ses camarades monte l'année suivante les bonnes de Jean Genet. Vous jouez Claire. Et alors, piqûre fatale, semble-t-il, le soir de la dernière représentation. Comment est-ce que vous vivez ce moment-là, Marie-Sophie Ferdinand ?
Ouais, c'est... Vous savez tout. J'étais dans le gymnase, on avait joué dans un gymnase, hein, c'était pas très glamour. Et puis les techniciens, enfin ils étaient deux, démontaient notre décor qu'on avait peint nous-mêmes, donc pour vous donner un peu l'ambiance. Et j'étais assise dans le gymnase en train de regarder le décor partir, c'était l'année de l'agrégation. Et c'était un chagrin absolu de me dire que cet endroit allait disparaître, que c'était fini. Je me suis dit non, mais faut que ça continue. Donc, il faut continuer à vivre dans cet endroit magique. Et c'est ce que j'ai fait parce que quelques semaines après, j'ai eu l'agrégation et j'ai annoncé à mon père que j'avais l'agrégation et que j'arrêtais. Voilà.
Réaction ?
Silence.
Bon, après j'imagine qu'il y a eu des paroles, mais effectivement, direction Lyon, direction l'ENSAT, l'École Nationale Supérieure des Arts et Métiers du Théâtre, parmi vos professeurs, une rencontre particulièrement importante, celle avec, et on le comprend, avec Nada Strancar. Mmh. Avant que vous nous parliez d'elle, on va l'écouter, Nada Strancar, au Festival d'Avignon, c'était en 96, sur France Culture, et quand elle évoque Antoine, c'est évidemment d'Antoine Vitesse qu'elle nous parle.
En règle générale, j'essaie de ne pas décourager.
D'accord.
Parce que si j'avais suivi les conseils de ceux qui m'ont découragé, je ne serais pas là. Donc, moi, ce que j'ai appris dans la classe d'Antoine, c'est la bienveillance du regard qu'on peut avoir sur ces jeunes gens qui ont envie de faire ce métier. Il n'y a pas de complaisance, mais de bienveillance. C'est-à-dire qu'à partir du moment, je me dis qu'à partir du moment où la personne est entrée dans une école, c'est qu'elle est digne d'être dans cette école et donc qu'il faut partager l'expérience qu'on a. Moi, j'ai eu un maître pédagogique. C'est vrai que pour moi, Antoine m'a révélé d'une certaine manière ce qu'était le théâtre. Bon, moi, j'avais envie d'être actrice et puis point, je ne savais pas pourquoi, je ne savais pas où ni comment. Les choses se sont précisées au fur et à mesure du travail et des expériences. Et je ne prétends pas du tout être un maître. Mais je partage une expérience, j'essaye de faire comprendre aussi aux acteurs que être acteur, c'est pas seulement être acteur, c'est être aussi une personne, c'est d'éveiller une personne, c'est d'éveiller une conscience et une responsabilité. Je pense que un acteur est un être, doit être un être responsable. Alors, faut pas se prendre au sérieux ni être. Mais je pense que à partir du moment où on pose les pieds sur un plateau, on est un être responsable. On est responsable de ce qu'on fait et de ce que font les autres.
Alors pour la novice. Vous étiez quand même, en entrant à l'ENSET, Marie-Sophie Ferdan, la bienveillance dont parle Nada Strancar, j'imagine qu'elle a bien sûr été précieuse, mais elle a apporté bien plus que cela. Qu'est-ce qui, vu d'aujourd'hui, vous semble les choses les plus importantes que vous a transmises Nada Strancar ?
Oh, ça me fait tellement plaisir de l'entendre. C'est vrai que la bienveillance, je voudrais juste dire un mot dessus, parce que c'était une femme qui regardait aussi des jeunes femmes. Et à l'époque, déjà, son regard tranchait avec celui qu'on avait pu croiser. C'est très délicat de parler de cette chose-là, mais elle nous regardait avec une forme de... C'est amour le mot qui vient, c'est sûrement pas le bon mot, mais elle voulait nous rendre fortes, puissantes. Elle nous regardait pas avec un... C'était pas pour casser, elle était très exigeante, mais elle nous regardait vraiment. Elle regardait notre corps, elle écoutait notre voix. Moi, je me souviens que j'étais très grande, moi je suis toujours très grande, et que je me tenais un petit peu, j'étais toujours assise dans les scènes ou un peu courbée comme ça pour pas. Elle m'a dit, mais on voit que ça. Alors arrête, mets-toi debout, puis la semaine prochaine apporte des talons, et puis tiens, monte sur une chaise, et puis tiens, monte sur une table. Elle m'a fait jouer un an sur la table. En me disant, on voit que ça, donc il faut te connaître. Si tu ne te connais pas, si tu te caches, et c'était cette espèce de lucidité en nous demandant, c'est ce qu'elle dit, d'être responsable. C'est, on peut pas, il faut au moins essayer de se connaître un peu pour pouvoir prétendre faire passer des textes. Et puis, il y a un autre mot qu'elle disait toujours, elle disait, il faut être obsessionnel. Il faut, quand vous travaillez, on avait travaillé Marivaux, elle arrivait avec les œuvres complètes de Marivaux, plus tout ce qui avait été écrit sur Marivaux, plus elle nous encourageait à avoir toutes les versions de Marivaux. Et je continue, moi, cette pratique. Elle dit, vous plongez dans un monde, il faut avoir tout mangé avant pour arriver le premier jour de répétition avec 1000 propositions à la seconde que vous allez ensuite dégraisser avec les gens en présence. Mais cette espèce de... Elle a une force, une puissance, cette femme. Et je sais qu'elle fait ça. Tous les élèves qui l'ont rencontrée parlent d'elle avec émerveillement.
Et ça continue au conservatoire, à l'heure actuelle. Alors, une fois diplômée de l'ENSET, Marie-Sophie Ferdan, vous allez faire vos débuts avec... Charles Brunel, au Théâtre du Peuple, à Bussan, c'était Don Juan revient de guerre, de Domo Norvat. Il y aura ensuite des spectacles avec Claudia Stavisky, il y aura aussi ensuite Christian Schiaretti, une première un premier opéra de Katsu, parce que vous l'avez retrouvé dans un intro, là, à cette époque-là, c'était Polly Pitchum. Il y aura Bérénice, mise en scène par Jean-Louis Martinelli. Ça commence quand même très fort, très vite. Alors, quand Lucas Emleb vous appelle en 2007 pour vous proposer de jouer Célimène dans Le Misanthrope, qu'il monte Salle Richelieu à la Comédie Française, comment est-ce que vous accueillez cette invitation?
Oh, mais ça s'est fait de manière un peu rocambolesque, parce qu'il m'a juste donné rendez-vous dans un café, j'étais en train de déménager, je me souviens, je suis arrivée avec un sac Monoprix de course, il m'a pas dit le sujet de notre rencontre, il voulait me faire parler, je le connaissais pas, voilà. Et il m'a demandé si j'étais libre à partir du lendemain. Je fais oui, parce qu'en fait, je remplaçais Marina Hans, qui devait partir du projet. Et donc, c'était une entrée un peu comme ça, en quatrième vitesse. Et comme je ne savais pas, moi, qu'il était là-bas, il me dit, tu es libre demain? Je fais oui, c'est pour faire quoi? Et là, il sort un petit folio avec Le Misanthrope, me disant, est-ce que vous pouvez... non, vous voyez à l'époque, est-ce que vous pouvez lire cette scène? Je la lis, je mets, ah là, vous montez Le Misanthrope, qu'est-ce que, Célimène. Il me fait oui, et c'est demain, et c'est au français. Je dis, ah ben voilà. Et donc, comme tout a été très vite, et la première était 3 semaines plus tard.
Ah oui, quand même.
Donc, j'ai pas eu le temps de penser à ce que ça représente, et il fallait déjà apprendre.
Oui, c'est
texte.
Pas mal. Oui. Et il fallait. Vous aviez de l'avance sur l'auteur, vous aviez déjà pratiqué, travaillé, vous n'avez pas besoin de faire cette recherche immense que vous faites à chaque fois.
Oh non, parce que Molière, c'était la première fois que j'ai le travaillé.
Ah, c'est une première fois?
Oui.
Ah oui, donc là, oui, bon, il a fallu en faire beaucoup là.
Oui, il a fallu aller très vite.
Alors, la Comédie Française, vous y resterez de 2007 à 2013. Est-ce que ça a été, d'une certaine façon, une autre forme d'école qui est l'école? Alors, moi je dis toujours que ce sont des athlètes de haut niveau, les comédiennes et comédiens du français, parce qu'il y a l'endurance, il y a la plasticité, puis il y a aussi la découverte et la pratique d'un très vaste répertoire. Est-ce que c'est une suite de formation finalement?
Oui, d'apprentissage, ça a été un apprentissage sportif. Parce que, vous savez, au début, quand on est dans une espèce de je sais pas, quand on commence au théâtre, on est un peu dans une mystique. Donc, on joue le soir, donc toute la journée, on est concentré, on ne voit plus les gens, je sais pas à quoi. Enfin, en tout cas, moi, je faisais comme ça, j'ai l'impression que c'est... Mais au français, le matin, vous pouvez venir à la radio enregistrer un poème. L'après-midi, vous répétez quelque chose. À 19h, vous pouvez jouer une petite forme. À 20h, un autre spectacle. Donc, il faut être... C'est gymnique. Il faut être prêt, il faut être performant. Il faut pas avoir trop d'état d'âme. Et puis, il faut trouver vite. Parce qu'il y a peu de temps pour chercher. Et donc, il faut trouver. D'où l'emploi, d'où le costume, d'où la place dans la troupe. Donc, voilà, c'est... Ça a cette ambivalence-là, et c'est en même temps, c'est un entraînement, je vais pas dire gymnique, je vais dire olympique.
Oui, parce qu'effectivement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Alors, et pour revenir d'une autre façon sur ce que disait tout à l'heure Nada Strancard dans l'archive que nous écoutions, je propose d'écouter une de vos anciennes collègues, Elsa Le Poivre, dans cette émission, c'était en novembre 2020.
Je pense qu'on ne joue qu'un seul un seul rôle toute sa vie. En fait, quel que soit, même si c'est des partitions qui nous semblent à l'opposé, tout ça, moi je pense que ça n'est qu'un seul grand rôle, en fait. Mais même des petits rôles, même des. Pour moi, tout est interactif.
C'est un peu vertigineux ce que vous dites là.
Oui, mais c'est. Moi je pense, parce qu'on est sur l'universalité des sentiments, on est sur qu'est-ce qu'un humain, voilà, qu'est-ce qui constitue l'âme humaine, un corps humain, une pensée, les émotions, les ressentis, je veux dire c'est des thèmes communs à tous les personnages, à toutes ces figures qu'on incarne, à chaque fois on est sur ces terrains-là, qu'après tel âge, telle fonction, ça c'est, voilà, après c'est la construction et la métamorphose. La métamorphose, elle nous emmène dans des mondes complètement éloignés. Mais le fond, du fond, ce qu'on recherche, c'est on est sur les mêmes bases. C'est sur la forme que le spectacle va prendre, que là, on peut partir dans des mondes opposés, presque. Mais nous, de l'intérieur, moi, ça reste ma carcasse, mon esprit et ma voix. Malgré tout, c'est de ça dont je vais me servir. C'est-à-dire que moi, les outils, ils sont dans mon enveloppe, quoi. Et à partir de là, je les mets au service d'eux.
Alors, ça c'est un point de vue, celui d'Elsa Le Poivre, sur son métier, la façon d'aborder ses rôles très différents, mais avec toujours ce même outil, soit, comment est-ce que vous entendez ça, vous Marie-Sophie Ferdinand, est-ce que vous partagez tout ou partie de, ou rien, des propos d'Elsa Le Poivre?
Je pense que je fonctionne pas exactement pareil, Enfin, si j'ai bien compris, parce que comme c'est un extrait, j'ai pas accès à toute sa pensée, mais elle dit que c'est toujours la même chose, un personnage unique. Et alors, moi, je crois pas vraiment au personnage, et donc c'est notre approche, hein, sans doute. Et je crois surtout, enfin, en tout cas, moi, je cherche à disparaître. Donc, je ne dirais pas que c'est toujours la même chose. C'est plutôt des trous noirs dans lesquels on peut être absorbé de manière très différente. Donc, c'est, je suis en train de dire l'inverse, du coup. Oui, donc c'est l'inverse.
C'est l'inverse. Mais malgré tout, on joue toujours avec soi. C'est ce que vous dites à notre rancard. Monte sur la table, tu es grande.
Oui.
Fais avec.
C'est-à-dire, mais oui, mais pour oublier. Parce que quand je suis assise ou quand je suis voûtée pour faire oublier que je suis 1m80, là je suis en train de penser qu'à moi. Alors que ce qu'elle m'a appris, c'est qu'une fois que je suis montée sur la table, j'oublie. Ça ne devient plus un problème puisque c'est réglé, cette question. Donc l'idée, c'est de s'oublier. C'est l'inverse de penser justement à soi. C'est le moment, et c'est ce que je pense en tout cas, moi c'est ce que je recherche, ce moment un peu vertigineux qui n'arrive pas tout le temps, mais qui arrive de temps en temps, où on s'abstrait, où on devient quelque chose, on est traversé par autre chose et qu'on ne peut pas savoir ce que c'est avant de l'avoir éprouvé.
Alors, pas une archive de vous, mais des propos de vous qui m'ont interpellé, comme l'on dit dans un entretien. Jouer, c'est croire au fait que les mots peuvent vous propulser dans un monde où vous serez enfin entendu par quelqu'un. Jouer, c'est tuer la solitude. C'est quelque chose que... alors, est-ce qu'il faut revenir à... pas nécessairement, mais à la solitude de l'enfance, de la petite dernière, de la campagne. Est-ce que c'est quelque chose que vous éprouvez toujours ?
En tout cas, je... oui, je crois encore à ces mots, oui. Oui.
Vous êtes quelle solitude, pour vous parler là ?
Une solitude...
existentielle, fondamentale.
Ouais, le mot est un peu fort, donc on a toujours du mal à utiliser ces grands mots, mais je pense je me sens davantage en vie quand je suis sur un plateau avec d'autres à partager quelque chose que dans la solitude de ma vie. Oui, je trouve que nos vies sont très éparpillées, très fragmentées, qu'elles peuvent nous renvoyer à des grandes spirales de chagrin ou de mélancolie, alors que jouer, c'est quand même c'est le plus beau mot, non ? On va jouer. Moi, j'ai passé ma vie à jouer. J'ai trouvé le métier qui me permet à l'infini de retrouver mon enfance, le jeu, ce jeu de l'enfance, qui est à volonté. Voilà.
Alors, pour le jeu, et pour les partenaires, et pour les camarades, on n'est pas là par hasard, vous enseignez à l'ENSAT, à la Strancar, il disait qu'il faut tout donner, mais bon, il faut faire les bonnes rencontres. Alors, il y en a eu beaucoup pour vous, au fil des années, qui ont été importantes, avec des auteurs, des autrices, des metteurs en scène, des metteuses en scène. Une sorte de coup double, si je puis dire, avec Pascal Rambert, puisqu'il écrit et met en scène. Vous avez travaillé à plusieurs reprises avec lui, avec Laurent Pellier aussi, à de nombreuses reprises. Et puis, un autre partenaire important de travail, Arthur Noziciel. On va l'écouter, une archive un peu ancienne, c'est 2008 sur France Musique, au micro de François Castan, qui explique sa méthode de travail.
Il y a des notes tous les jours aux acteurs. À chaque fois qu'on est en tournée, on refait des filages, on raccorde, comme on dit, c'est-à-dire qu'on reprend des bouts de répétition. J'essaie de faire en sorte de garder toujours le spectacle dans son intégrité. Et donc, je crois que mes spectacles sont extrêmement précis, enfin millimétrés, mais en même temps, ça ne se sent pas.
Et quelle est la liberté de l'acteur, justement,
dans... Elle est énorme. Elle est à la fois extrêmement contrainte et énorme. C'est que je ne travaille pas sur le personnage. Et donc, je demande toujours à l'acteur de faire entendre ou de raisonner par rapport à ce qu'il énonce. Donc, on fait un grand travail, on va dire, à la table, comme on travaillerait une partition, où on reste avec tous les acteurs pendant presque les deux tiers du temps de répétition, disons 5 semaines, autour d'une table, non pas à décortiquer le texte, mais à le traverser, à l'entendre, à le dire. Et je leur demande ensuite de travailler, c'est-à-dire de faire entendre ce qui est écrit, le sens, en essayant de garder le sens le plus ouvert possible, mais aussi comment c'est écrit. Donc de faire à la fois entendre le sens, mais aussi la musicalité, le rythme de l'écriture. Et donc tous les acteurs se mettent au travail dans ce cadre-là. Donc en fait, c'est comme un relais, c'est comme si le texte était, on va dire, un visage avec 12 bouches, quoi, quand il y a 12 acteurs, ou une tête avec 12 bouches. Donc c'est vraiment comme une partition musicale. Mais on ne parle jamais du personnage, parce que ce qui m'intéresse, c'est l'être présent sur le plateau. C'est la personne qui est là. Ils sont choisis pour ce qu'ils sont, ou ce qu'ils dégagent d'eux, ou ce que moi je vais voir d'eux et que ne veulent pas toujours montrer, ou la tendresse qu'on a pour eux. Et donc c'est comment eux résonnent par rapport à ce qu'ils racontent qui est beau.
Alors, archive, certes ancienne, je le disais, il y a une quinzaine d'années, avant même qu'il vous dirige dans La Mouette, où vous jouiez Nina, c'était la cour d'honneur du Palais des Papes, pour commencer, c'était pas mal. Vous l'avez retrouvé dans un texte de Pascal Rambert, Mes frères, qu'il mettait en scène. Il y a eu cette Dame aux camélias, créée en 2018. Dans quelques semaines, on vous retrouvera dans Les paravents de Jean Genet, mise en scène par Arthur Nozessian. Alors, la liberté et la contrainte dans la liberté dans la contrainte, vous vous y retrouvez pleinement. Vous aimez ça, travailler avec Arthur Nozessian. Vous voyez sourire tout au long de cette archive.
Oui, il m'a beaucoup appris. C'était la réponse à la question que vous me posiez tout à l'heure sur le personnage et qu'on joue le même personnage toute sa vie. La réponse d'Arthur à notre esthétique possible, c'est qu'il n'y a pas de personnage, c'est qu'il n'y a pas à chercher à rentrer dans une description, de correspondre à un... il m'a appris quelque chose que je ne savais pas sur l'art du théâtre. Et d'ailleurs, j'ai joué Nina en 2012 et suite à ça, j'ai démissionné du français. Mmh. Juste après, parce que c'était super, hein, on est bien d'accord, mais c'était un temps d'apprentissage. Et après, je me suis dit qu'avec Arthur et puis Pascal Rambert et puis d'autres rencontres que j'ai pu faire, je pouvais apprendre une autre façon de traverser le jeu et d'approcher la poésie du théâtre, la mystique, ce qu'il dit, une langue, que la langue vous traverse sans l'a priori du personnage. Je ne sais pas si c'est très clair, mais...
Très. Mais retrouver des artistes, c'est important. Vous retrouvez Marc Lainé pour En travers de sa gorge, que vous avez créé à la Comédie de Valence, maison qu'il dirige. Retrouver des créateurs, c'est... pour aller plus loin, c'est pour aller ailleurs, mais toujours en confiance.
Oui, mais j'aime cette fidélité. Chaque fois qu'ils me proposent de travailler avec eux, c'est aussi un cadeau de créer un fil dans le temps, de voir qui on était il y a 5 ans, il y a 10 ans, et de voir comment eux ont grandi, comment la vie les a traversés, les œuvres qu'on a traversées nous ont changés. Et en même temps, ça va très vite parce qu'on se connaît maintenant. Et il y a cette espèce de... familiarité et de tendresse aussi de retrouver, et pourtant c'est des personnes très différentes, Marc Lainé, Pascal Rambert, Arthur Nozessian ou Laurent Pellige, avec qui j'ai travaillé souvent, mais je suis très attachée à eux. Je crois que j'ai un tempérament très fidèle, voilà.
Alors, fidélité autrement avec un partenaire de travail, votre choix musical pour cette émission ce soir s'est porté sur une chanson de votre partenaire de jeu en ce moment, c'est Bertrand Belin. Vous avez choisi la chanson Peggy, ce qui n'est évidemment pas pour me déplaire, mais pourquoi ce choix ?
Parce que je suis au théâtre avec lui tous les jours, parce que c'est une de mes chansons préférées, et puis parce qu'elle dit avec toute l'élégance de Bertrand la meilleure façon de mourir, et je trouve qu'il le dit avec classe.
On écoute.
La dernière fois qu'on nage, une chose est sûre, me dit toujours Peggy, on ne le sait pas. La dernière fois qu'on nage, une chose est sûre, me dit toujours Peggy, ne le sais pas. Ça vaut mieux comme ça. On nage, on ne craint rien. Ça vaut mieux comme ça. On nage, on ne pense à rien. Oh 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 oh. Tranquille, loin de soucis, par un bel après-midi. On nage tranquille, la dernière fois qu'on nage, dans les reflets d'argent, chaque chose a sa place, dans les reflets d'argent. La dernière fois qu'on nage, une chose sûre, me dit toujours Peggy, on ne le sait pas.
De la voix chantée à la voix parlée, pour parler de votre travail pour la pièce de Marc Lainé, En travers de sa gorge, on va écouter Bertrand Belin, dans Affaires culturelles. C'était en novembre 2021. Il réagissait à une archive de Francis Ponge, qu'il aime tant.
Moi aussi, c'est vrai que je vois les mots comme des objets, avec des couleurs, des formes, un peu comme des insectes. On fait une collection d'insectes, ou un entomologiste qui collectionnerait les insectes, ou quelqu'un qui s'intéresse aux minéraux, vous voyez, qui a sa grande collection de minéraux. Bon, alors moi, c'est ça, collection de mots aussi, ça me parle beaucoup. Et j'avais lu, mais je me rappelle pas dans quel texte de Sartre, qui faisait une petite démonstration assez enfantine, mais qui m'avait bien plu. C'est-à-dire que il y aurait deux types de personnes de rapport à l'écriture. C'est quelqu'un qui a quelque chose à dire et qui va se mettre en quête de mots pour pouvoir exprimer, mettre dans une forme ce qu'il avait l'intention de dire. Et puis un autre qui, se promenant sans but,
sans but, ouais,
tombe sur les mots, trouve ces mots et se dit tiens, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça. Et c'est deux rapports qui sont voilà, qui peuvent les pistes peuvent se brouiller un petit peu, mais bon, moi j'appartiens clairement à la deuxième catégorie, quoi. Et c'est ce que j'entends un petit peu dans ce que dit Francis Ponge là. C'est fascinant. Alors bien sûr, le monde nous rappelle à l'impérieuse nécessité de produire du sens. Il s'agit pas de jeter des mots comme ça n'importe où par terre, quoique on puisse avoir des résultats parfois qui sont bien mieux que de longues réflexions, ça arrive. Mais on aime la besogne un peu, je crois que c'est un peu dans le cerveau qui doit aimer ça, pas forcément
nous, dit Bertrand Belin, mais vous, alors Marie-Sophie Ferdan, pour reprendre la phrase qui ouvrait, lui, il disait « je vois les mots comme des objets ». Comment est-ce que vous voyez les mots, vous ?
Comme des notes ? Oula, bon, c'est ça qui vient tout de suite, sans réfléchir.
C'est ça, oui. La réponse importante, celle qui vient sans réfléchir.
Alors, je vois la ligne musicale, c'est sur une portée et il faut trouver le bon tempo et la musique pour ordonner les mots ensemble et puis sa voix avec celle des autres.
Oui, mais il n'y a pas de clé au début. Comment on trouve la...
Ah si.
Vous la voyez comment, vous, la clé?
Tout est dit dans le... Je repars avec mon grand chef d'orchestre, Nada Strancar, qui disait si une réponse n'est pas dans la pièce, elle est dans celle d'à côté, celle d'avant, celle d'après, dans ses lettres d'amour, dans son autobiographie, dans son journal intime. C'est une imprégnation, en fait, la musique où une personne n'arrive pas avec un message qui est donné dans l'espace-temps de 45 pages d'un folio. C'est vous arrivez avec une vie. Et du coup, pour s'orienter là-dedans, la clé pour déterminer, si on ne la trouve pas, et souvent d'ailleurs, moi j'aime bien faire un petit pas de côté, parce que si on ne la trouve, c'est difficile, ça peut être, on n'est pas au bon endroit parfois pour regarder l'œuvre parce qu'on est trop inquiet ou trop dans la recherche d'une efficacité. Alors quand... Si vous travaillez Bérénice, allez faire un tour chez Andromaque, c'est bien. Parce que les mêmes choses peuvent être dites différemment. Et puis avec, certaines choses de Duras sont plus présentes dans ses archives radiophoniques que dans ses textes. Où il y a différentes façons de donner le mode d'emploi de ce qu'on a écrit.
Alors quand on est mis en scène par l'auteur, comme c'est le cas ici avec Marc Lainé en ce moment au Théâtre du Rond-Point, alors je vais pas divulgâcher le spectacle Marie-Sophie Fernand, mais ce qu'on peut dire c'est que vous êtes de toutes les scènes, ce spectacle qui dure pas loin de 2h30, c'est pas pareil pour des sections d'une chute de neige, vous êtes présente sur le plateau, il faut faire appel au cours de de ce spectacle de Marc Lainé a des registres quand même assez différents au fil du récit. Il y a un parcours de personnages. D'être mise en scène par l'auteur, ça change quoi pour vous?
Je dirais d'être mise en scène par Marc Lainé, parce que il est extraordinaire d'invention, de rapidité, de presque parfois de folie verbale. Et la chose que j'ai comprise, en fait, c'est que je suis lui. Je joue une réalisatrice de films comme lui, et tout puissant, en étant scénographe, écrivain, dramaturge, metteur en scène, directeur du lieu. Il est partout, et quand je ne sais plus comment, quand je ne trouve pas forcément la note, je le regarde lui, même en salle de répétition, comment il est hyperactif, très, très brillant, très beau, comme ça, et je m'inspire de cette énergie-là, voilà. Là, pour le coup, quand l'auteur est présent dans la salle, ça m'est arrivé quelques fois, c'est assez... C'est assez fort, parce que je dirais pas la même chose du tout de Pascal Rambert, par exemple. Je dirais pas du tout que je suis un miroir de ce qu'il est. Pas du tout.
Mais lui, il écrit plus souvent pour.
C'est ce qu'il dit, oui. Il écrit pour nous. Marc,
même
bon.
Si.
Même
bon.
Si, hein.
Je pourrais beaucoup plaisir là-dessus, mais bon.
Marc, je pense qu'il parle de lui. Tous les personnages portent ses initiales. M.L., Marianne Leggens, Marc Lainé. Donc je sais qu'on est une diffractation de lui. Donc quand on est perdu, je le regarde et j'essaie de me rebrancher sur son énergie, sur la façon qu'il a de s'exprimer, de penser très comme ça, à angle droit, comme ça.
Et puis dans ce spectacle, comme dans d'autres d'ailleurs précédemment de Marc Lainé, il y a un jeu, on va dire, pour la salle, mais il y a un jeu aussi pour la caméra. Qui se fait en même temps. Qu'est-ce que ça demande, ça? Qu'est-ce qu'il faut convoquer pour jouer aussi bien pour l'objectif, c'est-à-dire avec donc l'image qui va être projetée au-dessus du plateau, mais quand même être aussi absolument ancré dans le plateau?
C'est assez contraignant quand même, hein, faut le dire, parce que il n'y a pas un seul moment où on n'est pas filmé. Je crois qu'il y a plus de 300 tops. Et on joue beaucoup avec des scotchs de couleurs, parce que toutes les impulsions que vous avez, elles sont contraintes par l'ampleur. Il y a plusieurs caméras sur le plateau, des caméras fixes et puis des caméras mobiles. Donc la liberté, faut aller la chercher dans des endroits assez minuscules, parce qu'elles peuvent pas, vous pouvez pas changer. Ça, c'est l'expérience nouvelle que j'ai faite avec ce spectacle. On peut changer aucun geste. Aucun. Donc la variation, elle vient juste des pensées différentes qui vous traversent ou des énergies différentes qui sont convoquées sur le plateau. Mais tous les gestes sont obligatoirement les mêmes. Surtout que, c'est comme si une histoire de possession. La personne qui me parle en face de moi n'est pas la personne que j'entends, qui est derrière moi. Donc je me fie à des choses que j'entends, mais qui ne correspondent pas forcément au mouvement de la bouche qui sont devant moi. Donc c'est un...
Beaucoup de contraintes, là.
Oui.
Alors justement, quand il s'agit d'y aller, ce pas, alors qu'on fait ou pas selon le dispositif, mais le pas qui passe de la coulisse au plateau, vous le vivez comment, vous, Marie-Sophie Ferdan?
En général aussi.
Oui, en général. Est-ce qu'il y a... C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut lâcher ou qu'est-ce qu'il faut attraper?
Je dirais que, en tout cas, ce qui a évolué avec le temps, c'est que je pense qu'au tout début, quand j'étais toute jeune actrice, un peu nerveuse ou inquiète, j'étais très tendue, concentrée au début, en essayant vraiment de convoquer des tas de choses. Et avec le temps, je fais le voyage vraiment inverse, d'essayer d'oublier le maximum de choses et même de dormir. Je dors avant de monter sur scène, toujours, même 5 minutes, même pour vraiment lâcher le réel, lâcher les tensions et arriver comme très calme. J'essaie toujours de me dire rentrer le plus calme possible. Je pense à la respiration du cœur, au souffle, à ce genre de choses. Je regarde où j'en suis et j'essaie juste de m'asseoir sur une chaise et de me calmer pour être très, très, très lente. Parce qu'après, c'est la haute mer.
Après, c'est parti. Alors, justement, pour évoquer quelques d'autres actualités, vous avez, je l'ai dit, interprété Bérénice, Célimène, il y a eu Lady Macbeth, il y a eu Nina, la Dame aux Camélias, et puis la Reine Christine de Suède, vue par Sarah Stridsberg. Là, je me dis que ça doit être tout aussi important. J'ai eu l'impression, moi, en découvrant ce spectacle, dissection d'une chute de neige, de voir une sorte de... comme un classique instantané. Vous l'avez vécu comme ça, vous?
En tout cas, je trouve que c'est le texte qui manquait pour raconter le cheminement possible d'une reine monstrueuse sans... Enfin voilà, depuis le temps qu'on on peut jouer dans des tas de... On est... C'est le Richard III pour une femme qui manquait.
Ouais.
C'est-à-dire que il y a des personnages très complexes de femmes, mais avec cette ampleur, c'est, je trouve en tout cas, c'est rare. On la voit de 5 ans à 55 ans, dans toute sa... sans séduction. Moi, c'est ça qui m'a énormément plu. Et c'est pour ça que je dis que c'est le chaînon manquant entre Richard III ou, je sais pas, je pensais Lucrèce Borgia quand je travaillais ça avec Nada Sancar, qui est quand même dans une recherche de séduction, la féminité, il faut quand même plaire. Alors que là, elle a fait table rase de tout ça en disant que c'est une force brute, une force cérébrale qui convoque Descartes, qui veut que sa cour de Suède soit une cour éclairée, qui philosophe, qui débat, qui tranche, qui dit non et qui accepte de ne pas plaire. Et ça, moi, j'en avais pas rencontré, en tout cas, des personnages comme ça aussi aussi puissants, parce que dénués de la volonté d'être à la... Vous voyez, les clichés séduisantes, féminines, à la fin, il faut quand même qu'elle plaise. Non, à la fin, si elle a quelque chose à dire qui ne plaît pas, voilà, je pense que Richard III ne se pose pas la question de est-ce qu'il plaît, est-ce qu'on l'aime. C'est pas la question, c'est pas le sujet. Et quand même, Sarah Strisberg, aujourd'hui, elle arrive à faire émerger une figure... Ah, vous savez, c'est étonnant, parce qu'on l'a joué en, on l'a créé en 2021, on était confinés, on l'a repris en 22, on a été arrêté par le Covid, et là, on vient de rejouer à Nanterre. Et ben, entre temps, les scènes entre la reine Christine et sa maîtresse, puisqu'elle est bisexuelle, mais elle est beaucoup attirée par les femmes, il y a beaucoup de jeunes actrices qui sont venues du cours Florent, qui nous ont dit que c'était devenu une sorte de classique. Que maintenant, les scènes entre femmes, parce que c'est deux femmes qui ont des choses à se dire.
Finalement,
bah voilà, vous
classique
avez
instantané.
Voilà, bah bon. vous avez raison.
Non, enfin, je l'ai senti comme ça, c'est tout à fait autre chose. Alors, je serais très curieux de découvrir les paravents aussi, cette pièce de Jean Genet qu'a mise en scène Arthur Nozissel, créée au début de saison à Rennes, au TNB, qui est la maison qu'il dirige. Quelques mots à peine, parce que le temps qui nous est imparti va hélas se clore. C'est quoi cette aventure-là, Marie-Sophie Ferdan? C'est énorme, les paravents.
C'est la plus dure, hein. Oh oui, ce texte, il est là, les paravents, c'est 100 personnages, 6 ou 7 heures. Là alors je rassure tout de suite, dans la version d'Arthur Nozissel, ça fait 4 heures. Mais c'est surtout, elle échappe parce que le sens échappe. On dit que c'est une pièce sur la guerre d'Algérie, c'est une pièce sur la colonisation, mais pas tant que ça. C'est une pièce poème sur les vivants et les morts et comment les vivants sont traversés par les morts qui reviennent. Et le petit miracle, c'est que je crois que parfois ça semble clair. Ah. Plus clair que ce qu'on pouvait penser. Et c'est la magie de Genet et de donner. C'est complexe, mais c'est une complexité qui visiblement peut être partagée.
Hâte de découvrir cela. Alors il me reste à rappeler. Donc, pour l'instant, c'est En travers de sa gorge, texte, mise en scène, scénographie de Marc Lainé jusqu'au 16 mars au Théâtre du Rond-Point. Ensuite, 20 et 21 mars au Cédène de Lorient. Les 4 et 5 juin à l'Espace des Arts, scène nationale de Chalon-sur-Saône. Dissection d'une chute de neige, Sarah Strisberg, mise en scène de Christophe Rowe, qui a encore des dates du 3 au 5 avril à Montpellier, au Domaine d'Eau. Là, je ne parle que de cette saison. Hein. Et puis du 31 mai au 19 juin, sur la scène de l'Odéon Théâtre de l'Europe, Les Paravents de Jean Genet, mise en scène Arthur Nozissel. Le voyage a été beaucoup trop rapide. Merci beaucoup, Marie-Sophie Ferdan.
France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
Kim Gordon appartient à une catégorie très rare, celle des artistes qui, après avoir radicalement changé la face de la musique, continuent à se renouveler. À l'âge de 70 ans, l'ex-bassiste de Sonic Youth vient de publier un nouvel album solo, le second après No Home Records. Intitulé The Collective, ce nouvel opus est un portrait bruitiste de la consommation à l'âge des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Avec une pochette annonçant prendre le point de vue d'un utilisateur de smartphone, Kim Gordon compose en mosaïque une allégorie cacophonique de la modernité. Sur fond de trap lofi et de noise post-industriel, Kim Gordon scande pendant 11 titres des slogans, des lieux communs et des marques déposées qui, progressivement efface la possibilité d'un monde commun. Le collectif, qui donne son titre à l'album, est alors réduit à l'état compulsif, hypnotique, atomisé, un état obscur, comme elle l'annonce sur le morceau « It's Dark Inside », notre son du jour.
The sun is breathing down my back, breathing down my neck, whisper in my ear, whisper in my ear, can I love you with my eyes open, with my eyes open, closer than my gaze, closer to be blind. It's not enough. To be blind. It's not enough. The song is breathing down my neck. Breathing down my neck. Whisper in my ear. Whisper in my ear. And flowers will take away the guilt. They don't teach clit in school like they do lit. Pussy riot, pussy galore. Don't arrest me, bro. Puffy, puffy, puffy. Don't arrest me. Sending in the clouds, sending in the army. You want to be American? Get your gun. You're so free. You can shoot me. Lie. A pebble. Hold your breath. Still as a pebble. Hold your breath. Breathing down my back. Breathing down my neck. Whisper in my ear. Whisper. Dark inside, I'm grinding at the edges, grinding, grinding, grinding at the edges.
C'était It's Dark Inside de Kim Gordon, extrait de son nouvel album The Collective.
France Culture, Le Grand Tour, Le Grand Tour. Marie Sorbier.
Bonsoir Marie, où êtes-vous ?
Bonsoir Arnaud, ce soir je suis à 20 mètres sous terre à Paris dans le 14e arrondissement, dans les célèbres catacombes de la capitale où gisent près de 6 millions d'ossements. Le site fermera ses portes en 2025 pour quelques mois afin de remettre à la page les installations techniques pour conserver au mieux ces restes humains, témoins de notre histoire, tout en conservant précieusement la poésie de ce lieu à nul autre pareil. En attendant, je vous propose ce soir une visite.
Je suis Isabelle Knafou, administratrice des catacombes de Paris.
Merci de nous accueillir, nous venons d'entrer dans les catacombes. Est-ce que vous pourriez nous dire en deux mots ce qu'est cet établissement, de qui il dépend et qu'est-ce qu'on y voit ?
Alors, les catacombes de Paris existent depuis 1809. Nous avons une collection un peu particulière qui est constituée des ossements des anciens parisiens qui globalement sont morts entre le 10e et le 18e siècle. C'est-à-dire que nous avons plusieurs millions d'individus qui sont enterrés dans ce site et que vous pouvez découvrir, que le public peut découvrir au gré d'une promenade assez incroyable, à la fois assez macabre mais aussi très romantique et très poétique.
Est-ce que ces restes humains sont considérés comme des objets à conserver comme les autres ? J'imagine que non.
Alors, ils sont à conserver avec de grandes précautions, évidemment. Donc, notre travail, c'est à la fois d'accueillir le public pour pouvoir découvrir ce lieu absolument incroyable, mais aussi de nous engager à conserver dans les meilleures conditions possibles ces ossements qui sont quand même dans un environnement très particulier, puisqu'on est à 20 mètres sous terre, dans les anciennes carrières de Paris, donc les anciennes carrières d'exploitation de la pierre de Paris. Et que dans ces endroits-là, il y a de l'eau, on éclaire quand même un petit peu pour que les visiteurs puissent circuler. C'est pas très bon, ce mélange eau et lumière ne sont évidemment pas très bons pour les ossements. Et puis surtout, les visiteurs, ils apportent avec eux un certain nombre de bactéries qui ne sont pas non plus très bonnes. Donc tout ça pour dire que notre travail ici aux catacombes, c'est de faire le meilleur équilibre possible entre conservation de ces vestiges humains et accueil du public qui vient en très grand nombre ici. Alors, depuis
c'est ce que j'allais vous dire, on parlait du public, mais moi je me souviens des files d'attente devant les catacombes depuis toujours. C'est un des lieux les plus visités de Paris. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces catacombes, par rapport à d'autres qu'on peut visiter en Europe notamment ?
Elles sont uniques au monde de par le volume, donc entre 4-6 millions d'individus, comme je le disais tout à l'heure. On ne sait pas très bien quel est le nombre précis, mais on sait qu'il est très important. Le fait que ce soit à 20 mètres sous terre, c'est aussi une particularité. Et puis ce décor qui est unique. Donc ces murs constitués d'ossements très harmonieusement organisés, aussi bien dans un souci de conservation que d'esthétique.
Alors on se retrouve ici aujourd'hui parce que les catacombes ont lancé un chantier de restauration. Vous pouvez nous en dire deux mots ?
Très régulièrement, évidemment, on prend la peine de remonter des murs d'ossements pour améliorer leur conservation. Certains sont sur le point de tomber, d'autres sont carrément tombés. En tout cas, on réorganise ces murs pour les consolider et pour assurer leur pérennité dans le temps, dans les meilleures conditions possibles. Donc ça, chaque année, on va réaliser le remontage d'un mur.
Est-ce que vous nous emmèneriez en bas pour voir ?
Bien sûr, on y va.
Merci.
Il faut venir avec des chaussures pattes.
Et un manteau.
Et il faut venir avec un manteau, effectivement, puisqu'on a grosso modo toute l'année 14 degrés. Et
oui.
Et avec de l'humidité.
Et l'humidité,
on
oui.
On a un ressenti un peu frais dans certains endroits. Là, on a donc descendu les 131 marches de notre escalier. On arrive dans deux petites salles qui permettent de se repérer. Donc, sachant que le parcours des catacombes, il tient en deux parties. Une première partie, on va passer par les galeries de consolidation des carrières qui ont été réalisées par l'inspection générale des carrières entre la fin du XVIIIe siècle et aujourd'hui. Et donc on fait ce long parcours de 600 mètres dans ces galeries de confortation maçonnées avant d'arriver dans l'ossuaire. Tout au long de cette galerie, quand on lève la tête, on voit au plafond ce que nous on appelle le fil d'Ariane. C'est-à-dire ce tracé noir qui a été fait à la fumée et qui, dans l'ancien temps, servait le point de repère aux visiteurs, puisque les galeries maçonnées qui sont de part et d'autre du parcours n'existaient pas encore et qu'on pouvait se perdre dans le labyrinthe de cavités. Ici, on se trouve dans le vestibule, c'est-à-dire à l'entrée de l'ossuaire. Le décor démarre ici avec ses piliers noirs et blancs qui rappellent l'esthétique de l'Antiquité. Je rappelle qu'on est en 1809 quand le site est aménagé, donc on est en pleine période empire. L'Antiquité est follement à la mode. Les références qu'on va voir dans l'ossuaire, à commencer par la première et la plus célèbre d'entre elles, qui annonce la couleur et qui dit « Arrête, c'est ici l'empire de la mort ».
C'est clair.
C'est clair, c'est posé sur le linteau de la porte. Ça annonce la couleur effectivement. Et donc cette phrase tirée de l'Énéide, on va retrouver d'autres citations de Virgile à l'intérieur, mais aussi d'autres poètes de l'Antiquité.
Et ces citations, elles ont été inscrites quand, au tout début ?
Absolument. Elles ont été réalisées par le créateur du parcours, qui était l'inspecteur général des carrières de l'époque, qui s'appelle Éricard de Thurie, et qui, en 1809, prend la tête de l'IGC, donc l'inspection, et à qui on demande d'aménager le lieu pour pouvoir accueillir le public, car les Parisiens veulent voir leurs morts. Les transferts ont commencé dès 1785, les transferts d'ossements. On a donc commencé à vider les cimetières de leurs ossements, puisqu'on considérait que ça devenait un problème de salubrité publique. Et donc Éricard de Thurie aménage complètement le décor de ce lieu, et c'est lui qui a l'idée d'intégrer ses poèmes ici ou là pour en faire cette promenade un peu méditative, puisqu'il dit, à l'époque, il se dit c'est quand même assez désolant de voir tous ces ossements abandonnés entre trois flaques d'eau dans un espace souterrain. Profitons-en pour en faire vraiment une promenade un peu philosophique. Ces galeries donc constituées de murs d'ossements, et certains ont des motifs, d'autres ont simplement un décor extrêmement simple fait de lignes de fémurs et de lignes de crâne. Et vous voyez ici, vous voyez un cœur, c'est un des rares motifs qui existe.
Vous avez employé deux fois le mot esthétique, on le comprend bien quand on arrive ici, on a l'impression d'une mise en scène.
Absolument, c'est une mise en scène, ça pourrait ressembler à une installation d'art contemporain. Oui. C'est ça qui fait aussi la modernité de ce lieu et certainement son succès. C'est à la fois dérangeant et extrêmement serein. On prend conscience aussi que ce sont des vrais ossements humains, de vrais gens qui ont habité à Paris au 14e, au 15e, au 16e siècle.
Oui, et puis la masse, enfin, le nombre.
Et le volume, et voilà. Et en même temps, cette organisation, on voit qu'elle a été faite de manière respectueuse et que c'était ça l'objectif. Parce qu'en fait, c'est ça, ça suscite des émotions.
Émotions et respect, on voit d'ailleurs, il y a beaucoup de monde autour de nous et pourtant tout est très calme.
Voilà, la plupart des gens sont extrêmement respectueux et heureusement, certains le sont moins parce qu'ils ont l'impression d'être à Disneyland. C'est pas la majorité et en tout cas, charge à nous d'accompagner justement cette promenade pour que la tentation ne soit pas de s'amuser avec ce décor, mais de bien comprendre qu'il s'agit, qu'on est à la fois dans un cimetière et dans un musée. C'est un entre-deux, c'est unique.
Suite du Grand Tour demain, Marie Sorbier, où serez-vous ?
Demain, Arnaud, direction Vienne en Autriche pour vivre les derniers bals de la saison au programme Valse et Quadrille.
Merci Marie, à demain. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur le site de France Culture ou via l'application Radio France. Émission préparée avec Boris Pinot, Anouk Minaudier, Jules Barbier, Marceau Vassy, Lise Ripoche et Emma Rouberti.